Bien, merci d'avoir de votre patience et de votre énergie. On va essayer de tenir donc la promesse en abordant cette troisième table ronde qui va à la fois essayer de repartir au fond de ce qui a été dit dans les deux tables rondes précédentes et de tracer un certain nombre de perspectives. Évidemment, on ne peut pas échapper à la question quelles sont les raisons profondes des blocages, puisque ce matin, on a vu que finalement, économiquement, il n'y avait que se féliciter des coopérations et des collaborations entre l'Union européenne et la Turquie, et du fait qu'au fond, du point de vue économique en tout cas, la perspective de l'adhésion, un, ne posait pas problème, et deux, était extrêmement féconde et était réciproquement extrêmement féconde. Donc c'est pas là qu'est le problème. Dans la deuxième table ronde, on a bien vu que les problèmes pouvaient interférer, mais qu'au niveau des sociétés civiles, des collectivités locales et territoriales, il y avait une volonté de collaboration, il y avait une capacité de collaboration, il y avait une capacité d'entreprise et de tisser des liens réciproques de façon extrêmement profonde, extrêmement forte et extrêmement féconde, et que donc là non plus, c'est pas de là que viennent les problèmes, donc d'où viennent peut-être les problèmes. Alors, Ariane Bonzon invitait ce matin à ne pas se plonger dans l'histoire, donc nous n'allons pas nous plonger dans l'histoire. Néanmoins, je crois que nous ne pourrons pas éviter de prendre en compte le fait qu'une partie des problèmes viennent malgré tout de l'héritage de l'histoire, ou en tout cas des représentations que les uns et les autres s'en font, des représentations qu'on se fait de la Turquie en Europe et peut-être plus spécifiquement en France, en tout cas, et des représentations peut-être qu'on se fait de l'Union européenne en Turquie. Donc, je crois que cette question des représentations est une question importante, qu'elle détermine aussi le comportement d'un certain nombre d'acteurs politiques, puisque les acteurs politiques, comme vous savez, se réfèrent ou se régulent, au fond, en fonction des représentations qu'ils feront des représentations. Donc on est déjà dans des représentations carrées, mais enfin, c'est quand même ça leur détermination essentielle. On a là, je crois, un peu un noyau de difficultés ou de problèmes ou de blocages qui justifie ce que Billon évoquait ce matin, c'est-à-dire cette aversion, voire presque cette répulsion que certains prétendent avoir et parfois confessent ouvertement à l'égard de la perspective d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc je crois que c'est un peu sur ces difficultés-là que nous allons revenir, mais pour essayer d'envisager aussi quelles peuvent être les manières de les dépasser, de nous projeter dans l'avenir et d'envisager comment un avenir peut être déployé autour de ces problèmes, autour de ces questions. Et je crois que dans la perspective de l'avenir, précisément, ces dimensions, disons, culturelles et civilisationnelles ne sont pas à mettre sous la table et à cacher, à masquer, mais au contraire à mettre en avant et à avancer comme étant un argument. Alors, on va en parler d'abord avec Monsieur Akgül, qui a beaucoup travaillé sur les questions précisément des opinions et des opinions occidentales, de l'opinion française en particulier, mais pas seulement, par rapport à la Turquie, et qui va montrer que déjà le paysage est peut-être plus contrasté qu'il n'y paraît. Mais enfin, je ne vais pas faire son intervention à sa place, donc je le laisserai développer les choses. Puis Alain Lipietz va dégager à la fois la signification de la troisième frontière européenne, au fond, qui est la question du Bosphore, enfin, qu'on peut imaginer à travers cette question du Bosphore, et essayer de situer mieux quels sont les enjeux économiques de l'adhésion de la Turquie à l'Union. Olivier Ferrand, qui a sorti un livre dans lequel il évoquait, au fond, trois futurs possibles pour l'Europe, va voir comment, au fond, la question de l'adhésion de la Turquie est au cœur du choix entre ces trois futurs possibles, mais peut-être concerné par chacun des trois. Et enfin, M. Akhtar va montrer quelle perspective peut-être pas très court terme peut-être, mais moyen terme, ou en tout cas peuvent être envisagés, et ce que ça veut dire pour la question même, je crois, alors probablement de la Turquie, mais aussi pour la question même de l'identité européenne. Je vais leur passer la parole tout de suite. L'idée, c'est que chacune des interventions initiales soit relativement brève, et qu'éventuellement, après, dans un second temps, chacun d'entre eux, puisqu'on a la chance d'être peu nombreux, que chacun d'entre eux puisse réagir et rebondir sur ce qui a été dit, et puis après, on ouvrira un débat général. Dernier mot, je dois excuser M. De Tapia, qui devait venir et qui a malheureusement eu un problème de santé relativement important. Il a dû être hospitalisé en urgence, et donc voilà, c'est la raison de son absence, et on lui souhaite un prompt rétablissement. Je donne tout de suite donc la parole à Monsieur Akgül.
Merci. Donc, avant de commencer à préparer mon intervention, j'ai regardé la liste des questions qui étaient énumérées pour la séance, par l'organisation. Et la question centrale, c'est quelle Europe avec la Turquie ? J'ajouterai ou bien sans la Turquie, pour faire des perspectives. Et il est difficile de prédire, à partir des débats actuels autour de l'adhésion de la Turquie, il est difficile de prédire l'issue des négociations qui vont s'achever dans 10 ou 15 ans, parce que prédire la fin de l'issue de ces négociations, qui devront s'achever assez tard, tant sont nombreuses des incertitudes qui entourent le contexte international. Est-ce qu'on peut avancer encore, s'il vous plaît? Donc, incertitude sur le contexte international, à quoi ressemblera, par exemple, le monde dans ces années-là, le conflit des civilisations qui fait recette actuellement, va-t-il continuer à modeler les perceptions du monde et attiser les peurs? Quel sera l'avenir de la mondialisation économique qui marginalise aujourd'hui une bonne partie des populations et qui offre des alibis au discours populiste? Tous ces questionnements-là indiquent que c'est un exercice difficile. Bon, s'il est difficile de prédire si la Turquie sera avec l'Europe ou pas, il est possible, en revanche, de prédire ce que peut être l'Europe sans ou avec la Turquie. Mais avant de passer à cet exercice, je voudrais bien souligner, je voudrais insister sur un point, c'est qu'il y a assez souvent dans les discussions en France, surtout, il y a une erreur de perspective. Lorsqu'on discute de l'adhésion de la Turquie, on discute comme si la Turquie va adhérer demain. Donc, c'est une adhésion qui va intervenir immédiatement et on en met les dynamiques du processus d'adhésion, parce que pendant ce processus, la Turquie va converger vers l'Union, donc vers les normes de l'Union, et puis aussi, il faut tenir compte aussi de l'évolution de l'Union. Par ailleurs, ce point-là, on peut le remarquer, lorsqu'on procède à une lecture plus attentive des sondages, des enquêtes. Par exemple, si vous prenez les résultats du sondage d'une enquête réalisée en 2004 pour Ipsos Le Figaro, on posait d'abord la question « Êtes-vous favorable ou défavorable à une adhésion de la Turquie à l'Union européenne ?» Et bien entendu, là, il y avait une majorité d'opinions opposées, 56%. Et 36% favorables. Et dans le même sondage, donc, il y avait d'autres questions qui étaient posées par la suite. Et lorsqu'on regarde et on pose la question autrement, la Turquie fait des efforts politiques et économiques nécessaires, il serait possible d'imaginer son entrée dans l'Union européenne dans l'avenir, eh bien, cette proposition accueillait 63% d'opinions favorable, donc une majorité, lorsqu'on précise bien l'échéance où cette adhésion va intervenir. Si on peut avancer dans ces tableaux, donc on va passer un peu rapidement. Vous avez la distribution selon les formations politiques, qui est peut-être intéressant aussi à discuter. Pour la première question. Il y a juste une majorité au niveau de l'extrême gauche et du Parti communiste, puis ensuite les autres sympathisants sont moins favorables à la Turquie. Mais en ce qui concerne la deuxième question, donc le tableau suivant, s'il vous plaît, voilà. Donc à part l'extrême droite, vous avez une opinion tout à fait favorable pour l'adhésion de la Turquie à terme, c'est-à-dire à l'achèvement du processus de négociation. Alors, donc la problématique qui était posée, c'était quelle Europe avec la Turquie, donc je me suis livré à un exercice sur deux points, en fait, que je vais traiter juste un point, puis ensuite peut-être on reviendra sur le deuxième point. Donc, l'identité européenne. Et là, on peut résumer l'opposition, en fait, en deux points. D'une part, nous avons les fédéralistes, donc, qui pour un super-État-nation, et puis d'autre part, ceux qui sont partisans d'une coopération intergouvernementale. Alors, quand on réfléchit dans ce cadre-là, on se pose la question, donc tout d'abord, sur l'identité européenne, peut-on concevoir l'Union européenne, peut-on concevoir l'Union européenne comme une nation qui posséderait une identité culturelle homogène. Donc on fabrique en fait, une nation a besoin des mythes fondateurs, etc. Ou bien, à l'inverse, peut-on envisager l'Union plutôt comme une construction autour des idéaux communs, comme la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, etc., donc qui sont tournés, si vous voulez, d'une certaine manière, vers le futur. Donc la différence entre ces deux positions, c'est que la première position, c'est plus prendre ses origines, ses racines dans l'histoire, on va chercher des mythes fondateurs, alors que la seconde vision renvoie plutôt vers le futur. Alors, quand on prend la première position, donc celle des fédéralistes, on aboutit au rejet de la Turquie. Pourquoi ? Parce que on cherche donc une culture commune qui sera nécessairement fondée sur des mythes fondateurs. Et là, la Turquie sert de repoussoir. Donc c'est l'autre par définition. Donc, et pour ce faire, on utilise le christianisme comme mythe fondateur. Alors là, il y a un paradoxe quand même, puisque lorsqu'on regarde les opinions publiques, publié l'état de l'opinion publique publié par l'Eurobaromètre. Et je me suis amusé à croiser ces opinions publiques, donc avec les proportions de croyants en Dieu et aussi et la proportion d'opinions favorables à l'adhésion de la Turquie. On s'aperçoit que la relation en fait est très... En fait, là, il n'y a pas une relation significative. Et quand bien même, si on accepte qu'il y a une relation, en fait, on a une relation positive, alors qu'on devrait avoir une relation négative. Si vous voulez, plus la croyance en Dieu augmente, plus les opinions publiques sont favorables à l'adhésion de la Turquie. Ce qui est paradoxal, pour le moins qu'on puisse dire, pour ceux qui défendent donc, l'identité chrétienne de l'Europe. Mais alors... à cela, donc les tenants de cet argument disent mais nous ne parlons pas de la religion comme ça, de la pratique des pratiques religieuses, mais nous parlons de l'histoire donc qui s'est forgée par des siècles de christianisme. Alors, et quand on creuse un peu cette vision, donc on se demande de quelle Europe s'agit-il, parce que toutes les références historiques à l'Empire romain, la Renaissance, la Réforme, la Contre-Réforme, etc., excluent non seulement la Turquie, mais une bonne partie de l'Europe aussi, surtout située au sud de Danube. Donc finalement, on se trouve avec une Europe réduite à sa composante occidentale et qui, en fait, correspond finalement au camp plutôt fédéraliste, si vous voulez, au noyau, donc les six fondateurs de l'Union. On a été un peu rapide. Ce choix n'est pas fortuit, parce qu'on recouvre, enfin, on trouve que cet ensemble-là recouvre les six qui sont plus, enfin, dont la majorité est plutôt favorable à un système fédéral. Mais cette question de la religion n'est pas tout à fait épuisée, puisque cela renvoie aussi au positionnement de l'Union dans le monde, notamment dans le cadre du conflit des civilisations. Alors là, on peut envisager deux configurations. Et donc la première configuration, c'est qu'on accepte le classement de Huntington. Donc à partir de là, on va discuter s'il y a ou non un conflit. Et si on accepte qu'il y a un conflit, donc on peut dire que la Turquie, pour certains, c'est un cheval de Troie de l'islam. Il y a même des ouvrages qui portent ce titre. Et donc c'est l'affaiblissement de l'Union européenne pour les uns. Et pour les autres, au contraire, pour ceux qui sont partisans de l'adhésion de la Turquie, ça peut être un cheval de Troie de l'Occident dans le monde musulman. Donc ça aboutira au renforcement de l'Union européenne. Et deuxième configuration, c'est que dans ce cas, on remet en doute le classement effectué par, par un think tank, parce que le problème commence à partir du moment où on accepte ce, ce classement. Le problème commence avant même de discuter s'il y a non un choc. Et ce classement, on peut le dire, que c'est un classement grossier, hein, de classer donc, le monde chrétien, donc, où il y a une diversité, le monde musulman. Est-ce qu'il y a un monde musulman? Je ne sais pas. Moi, je ne vois pas un monde musulman qui est homogène, là où il y a partout les mêmes cultures, etc. Donc, il y a une diversité un peu partout. Donc, on peut trouver d'autres facteurs d'identification. Et là, dans ce cas, la Turquie, c'est un pays candidat comme un autre, puisqu'il n'est pas, il n'y a pas, il ne s'inscrit, elle ne s'inscrit pas dans le cadre de cette opposition, donc, du conflit des civilisations. Voilà, donc, après, je voulais continuer avec le positionnement de l'Union dans le monde, mais je crois que je vais m'arrêter là.
Oui, peut-être on enchaîne là-dessus, puis vous y reviendrez évidemment tout à l'heure. En tout cas, merci pour cette position, surtout pour avoir révélé, un, que l'opinion est moins massive et univoque qu'il ne semble, et deux, pour avoir mis le doigt sur ce paradoxe qu'effectivement, au sein de l'Union européenne, ce sont les pays les plus catholiques, ou du moins qui professent le plus d'être ancrés dans la pratique religieuse catholique ou chrétienne d'une façon générale, qui sont les plus favorables à l'adhésion de la Turquie, ce qui montre bien qu'on n'est pas dans un affrontement comme ça de monde culturel à monde culturel. En revanche, le fait que la France laïque soit parmi les plus hostiles montre bien qu'il y a en France beaucoup de gens qui conçoivent qu'un pays musulman ne saurait être vraiment laïque, au fond, et que avec, je dirais, le cache-sexe de la laïcité qui se coule très volontiers dans une grille de lecture tout à fait antique de conflit des civilisations, mais on y reviendra sans doute. Alain, je te laisse la parole pour le.
Merci. Alors, je suis Alain Lipiet. J'étais député européen pendant 10 ans. Je ne me suis pas occupé particulièrement de la Turquie, mais mon parti, les Verts, s'en sont particulièrement occupés. Hein, et j'étais le porte-parole de Dany Cohn-Bendit pendant la dernière campagne électorale et nous avions assumé le discours, alors je ne dirais pas pro-turc, mais oui, pratiquement dans l'opinion publique française, on pouvait le considérer comme pro-turc, de ceux qui considèrent qu'un jour la Turquie fera partie de l'Europe, de l'Union européenne. Non seulement, elle fait déjà partie de l'Europe et en plus elle appartiendra un jour à l'Union européenne. Nous étions à la fois, probablement de tous les candidats, ceux qui avions un discours le plus clairement fédéraliste et le plus clairement pro-turc, on pourrait dire de ce point de vue-là. Alors, bien évidemment, contrairement à ce que semble dire Joël Roman, et peut-être était-ce un effet rhétorique, il est évident qu'on ne peut pas comprendre l'hostilité française à la Turquie, indépendamment des facteurs historiques. D'un point de vue économique, la Turquie est beaucoup plus entrable dans l'Union européenne que, par exemple, la Roumanie ou la Bulgarie. C'est au niveau de l'égalité de type du rapport productivité-salaire, hein, qui est le principal problème à l'entrée de nouveaux pays dans l'Union européenne. La Turquie, bon, bah, c'est un pays en voie de modernisation rapide, qu'à une certaine époque j'avais qualifié de fordisme périphérique, mais qui est maintenant un quasi-fordisme. Enfin bon, du point de vue au moins de sa partie occidentale, mais j'y reviendrai, c'est la partie orientale et justement celle qui fait problème. Donc, elle ne posait pas énormément de problèmes. Et donc, c'est pourtant elle qui suscite le rejet le plus, je dirais bien, viscéral, c'est-à-dire non raisonné. Hein? Alors, quand on a affaire à quelque chose de non raisonné, il faut toujours se dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de rationalité là-dedans. L'incohérence de l'électeur est de droit. Il a tout à fait le droit de ne pas être cohérent. Mais une femme ou un homme politique qui essaie de poursuivre un objectif et de poursuivre un bien commun pour l'ensemble de la société doit essayer de comprendre, presque de façon psychanalytique, d'où viennent les problèmes. Sachant que, de la vie assez générale, il n'y a pas de problème économique majeur à l'entrée de la Turquie. Alors, l'autre problème qu'on a essayé de synthétiser sous le nom de rêve du Bosphore, hein, c'est qu'il y a un problème avec le Bosphore. Hein, de même que, il faut voir, c'était dans le discours qu'il y a eu un premier rêve, le rêve du Rhin. puis le rêve de l'Oder, puis le rêve du Bosphore. Le rêve du Rhin, c'était la réconciliation franco-allemande, en tout cas entre l'Allemagne qui avait été nazie et tous les pays qui en avaient été victimes. Le rêve de l'Oder, c'était la fin de la guerre froide. Et le rêve, mais pas seulement, hein. Et le rêve du Bosphore, c'était la réconciliation entre l'Europe chrétienne, effectivement, et l'Europe ottomane. Alors, j'insiste là-dessus. J'ai souvent, dans les discussions avec mes amis turcs, la question de la réconciliation, c'est-à-dire on met les cartes sur la table et on se réconcilie, est fondamentale et constitutive du premier rêve. Il n'y aurait pas eu 1957 et le traité de Rome sans que les Allemands et les Français disent « Bon, il y a eu les crimes nazis, ça va, on passe dessus. » Bon, j'étais enfant à l'époque, je voyais mon père, ancien déporté comme juif, ma mère, ancienne résistante, discuter et disait « Oui, on y va avec l'Allemagne. » Ce n'était pas évident, ça avait été rejeté dans toute la période précédente avec l'affaire de la CED, hein, de la Communauté européenne des défenses. Et il est évident que la question de l'histoire est fondamentale pour se lancer dans un truc pareil. Si on ne l'assume pas, ce n'est pas la peine d'essayer. Et vous savez très bien qu'en France vivent énormément de gens qui ont des problèmes avec la Turquie, hein, avec les trois fameux problèmes, celui de l'Arménie, celui de Chypre et celui des Kurdes. Bon, il est évident, et s'il n'y a pas affrontement du problème et, pardon, réciproque, hein, on n'avancera pas. Le problème peut sembler bizarre puisque la grande majorité des Européens ne sont ni arméniens, ni kurdes, ni chypriotes. C'est vrai. Et c'est vrai que, du point de vue quantitatif, c'est pas important. Le problème, c'est que ça s'articule avec un passé dans lequel la Turquie, à tort ou à raison, s'est retrouvée être l'ultime, je dis bien l'ultime, hein, des adversaires de l'Europe occidentale, en quelque sorte, après le bloc soviétique. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est réconcilié avec le bloc soviétique, alors reste la Turquie comme couche antérieure. Alors, c'est très important pour la Turquie de comprendre qu'elle est entre la réconciliation de Yalta, c'est-à-dire ce qu'on appelait le rêve de l'Oder, et la prochaine, le prochain rêve. Car bien évidemment, si beaucoup de Français sont réticents au discours des Verts du rêve du Bosphore, c'est qu'ils disent « Oui, vous nous dites ça, et après il y aura le rêve de la Méditerranée. » C'est évident. Toute une partie des gens commencent déjà à dire, en s'en plaignant ou en le souhaitant, hein, que, ma foi, la frontière naturelle de l'Europe, c'est l'ancien Empire romain. C'est-à-dire Turquie comprise, mais aussi tout le sud de la Méditerranée. Et vous avez déjà au moins un pays candidat, c'est le Maroc, qui est un des rares pays arabes qui n'a jamais été ottoman. Hein. Donc vous voyez, qui n'a pas de tradition ottomane, qui a une tradition à elle quand il arrive à l'indépendance. À lui, quand il arrive à l'indépendance. Donc, vous voyez qu'il faut savoir où on en est. Quand vous avez des réticences allemandes à la Turquie, vous dites « oui, c'est le problème avec l'immigration turque ». En France, il y a très peu de Turcs relativement aux Arabes, aux Maghrébins en général, Arabes ou Berbères. Mais évidemment, quand vous dites à un Français « on va franchir le Bosphore, on va dépasser l'affrontement historique monde ottoman, monde chrétien », tout le monde pense, dit, bien sûr, vous nous faites ce coup-là. Et le coup d'après, c'est, on va franchir la Méditerranée. Alors, on peut leur répondre, au moment où la France rentre dans l'Union européenne, en 1957, enfin, dans l'ancêtre de l'Union européenne, tout ce qu'on repose à la Turquie, les autres peuvent le reprocher à la France. Hein, la France a la majorité de son territoire en dehors de l'Europe. On va jusqu'à Tamanrasset à l'époque. Hein. La France torture dans les commissariats. La France a un problème de minorité nationale. Enfin, on a la totale. C'est bien pire que la question kurde au moment où la France rentre dans l'Union européenne. Hein. Mais apparemment, ça n'a gêné personne à l'extérieur de la France. Mais d'une certaine façon, la réticence à la Turquie ne sert que de voile à la future réticence au rêve de la Méditerranée. Il faut toujours avoir conscience. Bon, alors, est-ce que c'est un problème réel, ce... Alors là, on est obligé... cette différence. Hein. Alors là, on est obligé de se dire, bon, Huntington dit des choses scandaleuses. Alors, je ne suis pas en train de faire comme du Le Pen, comme du Fabius à propos de Le Pen. Il donne des mauvaises réponses à des vraies questions. Hein. Mais c'est vrai que Huntington s'appuie sur le fait que il y a des différences culturelles entre les trois zones en jeu, hein, qui sont la zone de l'Europe latine, y compris les protestants, dont il sous-estime d'ailleurs l'importance. Il y a une fracture catholique-protestant. Le noyau des six est un noyau catholique, il n'est pas un noyau latin. Hein. Le noyau des six de 57, on a même dit que c'était une Europe démocrate chrétienne papiste. Hein. Et donc les, latins, les protestants sont massivement arrivés plus tard, hein, avec l'arrivée de l'Angleterre, enfin... La fusion avec la zone européenne de libre-échange, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la Scandinavie. Mais il y a effectivement des différences. Il y a encore des catholiques en France qui se plaignent que, quand il y a un règlement écologique qui arrive sur la France, on dit, c'est la dictature des protestants du Nord. Vous voyez ça, y compris dans Libération. Hein ? Donc ces différences culturelles existent. Je suis amoureux de la Grèce tout autant que de la Turquie. J'ai eu énormément d'étudiants turcs. J'ai eu, non pas tellement d'étudiants turcs, mais énormément d'étudiants grecs et quelques étudiants turcs. Mais c'est clair que quand je vais en Grèce, je vois très bien la différence entre l'Europe byzantine et byzanto-ottomane, justement, ce qui n'arrange pas les choses, et l'Europe latine. Et ça joue. Seul Sémitis et Papandréou, le fils... Le petit-fils, si on veut, Georges Papandréou, celui actuel, qui est l'actuel chef du PASOK, ont réussi à débloquer cette situation. Il a fallu du temps, hein, peut-être 15 ans après l'entrée dans l'Union européenne, pour que la Grèce accepte de gommer un peu de sa différence et de ne pas rentrer dans le narcissisme conflictuel de la petite différence. Donc, c'est pas joué, hein, c'est pas joué. Bon, même la réconciliation franco-allemande n'est pas jouée. Bon. Alors, je crois qu'en réalité, on n'a pas intérêt à dire « ça ne compte pas ». Nous sommes laïcs, donc ça ne compte pas. Et j'arrive au dernier point. La laïcité est presque plus un problème qu'une solution. Alors, ça paraît scandaleux. Moi, je suis un militant laïque, je suis athée, etc. Hein, mais c'est presque plus un problème qu'une solution. Car, aussi bien en France qu'en Turquie, nous savons très bien que la laïcité, qui est un idéal magnifique comme laïcité ouverte, se traduit dans une situation de confrontation avec une religion dominante par une sorte d'athéisme d'État. Et il y a une espèce de convergence assez bizarre entre chevènement, qui représente un peu de façon paradigmatique l'ultra-radical. Enfin, il y a pire que lui, hein, donc c'est pas le plus paradigmatique. Hein. Tu citais d'autres noms, oui, non, enfin, évidemment. Mais ils sont peut-être pas tous connus d'ici. Alors, Chevènement est le plus connu, disons. Et la figure d'Atatürk, par exemple. Donc, nous avons un vrai problème que on ne peut réduire ce problème de confrontation des civilisations qui devrait aboutir à une convergence des civilisations plutôt qu'à une confrontation en la respectant et donc en se basant sur une notion de laïcité ouverte où tout le monde est traité en égal mais sans dire tu n'es mon égal qu'à condition que tu te nies, que tu effaces ta réalité. Alors dernier point et j'y reviens. Est-ce que, supposé qu'on ait une laïcité ouverte, qu'on affronte le problème du passé, que tout le monde pose sur la table les anciens conflits et dise « oui, c'est vrai, dans l'histoire, il y a des choses pas belles, mais bon, on se réconcilie, etc. Et, » et puis, c'est pas fini. Il y aura peut-être aussi derrière la Méditerranée. Hein. Supposé que tout ça soit résolu, est-ce que ça débouche, et c'est un argument qui reste fort, en particulier pour nous, ceux qui sont les plus fédéralistes, est-ce que ça veut dire que ce respect des différences signifie plutôt de l'intergouvernementalisme que du vrai fédéralisme ? Alors là, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on peut très bien avoir du fédéralisme profond en respectant les différences locales. La Confédération helvétique, malgré son nom, est une fédération. C'est-à-dire que les mêmes lois sociales s'y appliquent plus ou moins partout. Et je suis de ceux qui pensent qu'à terme, les mêmes lois sociales doivent s'appliquer aussi bien à la Turquie qu'au Portugal ou à la Finlande et ou à l'Irlande, et que tout le monde y trouvera finalement son compte, tout en respectant la diversité d'évolution culturelle, mais en gardant ce socle de même loi sociale et bien entendu de même droit de l'homme dans les dans l'ensemble de l'Union européenne.
Merci. Merci.